RCF. Être plasticienne et responsable d'une aumônerie catholique en hôpital, tels sont les deux moteurs de la vie de Juliette Latron, qui aime accompagner les personnes et qui reconnaît avoir toujours été accompagnée par Jésus. Même si elle l'a parfois oublié, il était toujours là. Juliette Latron, bonjour.
Bonjour.
Juliette Latron, vous êtes plasticienne et puis aussi responsable de l'équipe de l'aumônerie catholique du CHU de Saint-Étienne, le centre hospitalier universitaire. Comment on devient responsable de l'aumônerie du CHU de Saint-Étienne?
Comment on devient déjà membre d'une équipe d'aumônerie? Parce que après le parcours au sein de l'équipe, c'est selon les aléas des allées et venues, des départs et des arrivées.
Et comment vous avez intégré cette équipe?
Alors d'abord, c'est comment on se sent appelé en fait à être aumônier d'hôpital. Et ça, c'est un parcours qui vient de loin en fait. Je pense qu'il s'origine lors de l'accompagnement de mes parents en fait, qui tous les deux donc ont eu des cancers en fait, finalement assez jeunes. Mon père est décédé à 67 ans et ma mère 2 ans après à 72 ans. Et en fait, c'était des personnes non croyantes, non pratiquantes. Bon, ma mère était quand même plus agnostique, on va dire, et mon père a franchement athée. Mais ils avaient une simplicité dans ce rapport et à la maladie et à la mort, qui a permis un temps quand on a senti la mort s'approchait, tout ça, une authenticité et de pouvoir être en vérité vraiment et parler et se dire tout ce qu'on avait à se dire. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Surtout que, dans les centres de soins palliatifs, on voit les autres familles, etc. On voit bien que tout le monde ne le vit pas de la même façon.
Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, vous avez accompagné vos parents dans le centre de soins palliatifs du CHU de Saint-Étienne.
Non, pas à Saint-Étienne.
Non,
c'était pas du tout là.
C'était ailleurs.
C'était en Bourgogne. Mais c'est vrai qu'on... Alors, c'était effectivement douloureux, tout ça. Mais le fait qu'ils ne se voilaient pas la face et qu'ils restaient... On a vécu une relation extraordinaire, quoi. Et j'ai trouvé qu'il se passait là, parce qu'il se passe là vraiment. Quand on sait qu'on aborde la fin de sa vie, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Et ils l'ont vécu, quoi. Ils ont accepté de le vivre pleinement. Et c'est essentiel.
Même façon, vous nous disiez que votre mère était croyante et que votre père était athée.
Disons que ma mère, oui, elle pensait qu'il y avait quelqu'un, quelque chose, quoi.
Ouais.
Mon père athée, mais il parlait, il était complètement capable de parler de sa mort, de parler de ce qu'il voulait, il n'avait pas peur, il n'avait pas peur d'en parler, en tout cas.
C'est quelque chose quand même d'accompagner ses parents sur ces moments-là.
Il y en a qui les perdent alors qu'ils sont enfants. Moi, j'étais adulte. Donc, oui, c'est quelque chose.
C'est pas souvent, et des fois, on a un peu peur d'accompagner ses parents.
Moi, j'avais la foi. Moi, j'avais la foi, donc c'est ce qui me porte. Et puis, il se trouve que, mon frère et ma sœur habitant très loin, à l'étranger, tout ça, c'est un peu moi qui étais l'enfant, comme on dit, il n'y a qu'à accompagner de plus, même si après, on s'est retrouvés quand même réunis au moment important. Puis de toute façon, le Seigneur nous donne ce dont on a besoin, Mais j'ai trouvé qu'ils avaient une... Ouais, et puis surtout que maintenant... Je rencontre énormément de personnes dans cette période-là de leur vie. Je vois qu'il y a plein de façons de le vivre. La peur, le déni, entre la famille et le patient qui veulent se protéger mutuellement. Donc, ils refusent d'aborder la question.
Oui. Alors que là, avec vos parents, il n'y avait pas de refus.
Non, pas du tout.
C'est ça. Moi, je trouve que ça m'étonne. Si vous permettez de vous le dire ça, ça m'étonne.
Mais moi aussi, on ne se pose pas la question à ce moment-là, mais c'est une grâce, en fait. Ouais. C'est une grâce. Et je pense que, il y a quelque chose qui s'est passé là où je me suis dit, mais c'est extraordinaire ces moments, et c'est extraordinaire de pouvoir être en vérité ensemble, parce que c'est bien ça l'essentiel.
Il y a des choses que vous avez pu vous dire, sans que vous me disiez
on a aucun
ce
regret.
Que vous êtes dit, mais vous avez pu vous dire des choses.
Tout. On n'a aucun regret de se dire, ah bah zut, j'aurais dû lui dire. Parce que je vois ça régulièrement, des gens qui arrivent au local en disant, notre maman est inconsciente et tout ça. Alors elle est catholique, mais on ne sait pas ce qu'elle aurait voulu. Et je dis, oui, bon, mais... elle est là depuis longtemps, bah, depuis 2 semaines, oui. Donc on aurait pu faire quelque chose avant, mais ils attendent trop. Ils n'osent pas. Alors que... concrètement, on va tous mourir, quoi. C'est quand même une question que tout le monde sait. Enfin,
mais qu'on fuit.
Et qu'on fuit. Et qu'on fuit.
Juliette Latron, vous m'avez dit tout à l'heure, vous aviez la foi. Or, vous m'avez dit au tout début, là, votre père était athée, votre mère croyante, mais si j'entends bien, au-delà des mots, peut-être pas très pratiquante.
Pas du tout.
Est-ce que vous avez été baptisée? Est-ce que vous avez eu une enfance? Parce que cette foi, elle vient d'où?
Alors, dans nos parents donc nous ont fait baptiser. Je pense qu'il y avait du sens pour eux quand même dans la culture de l'époque. C'était bien, je pense, dans le fait de nous donner un parrain, une marraine. Et il y avait un sens certainement symbolique aussi. Mmh. Et puis on baignait quand même dans la culture chrétienne, c'est-à-dire que ça ils l'admettaient. Je veux dire l'histoire du Christ. À Noël il y avait une crèche. Enfin. Pour eux, le Christ avait existé, enfin, mais par contre, ils disaient bien qu'eux ne croyaient pas en Dieu.
C'est paradoxal.
Marquez,
oui, on peut croire à l'existence d'un homme appelé Jésus-Christ.
Voilà,
et
oui,
ne
en
pas
tant
penser qu'il
pour
était
eux,
fils
en tant
Dieu.
Qu'homme, il avait existé, d'accord, mais effectivement, ouais. Il n'y avait pas ce côté Dieu. Et ils étaient quand même très ouverts, mais voilà, mes amis allaient au caté et pas moi. Donc moi, j'ai glané un peu des trucs et intérieurement, j'avais une relation avec Jésus, vraiment. C'est-à-dire que je sais pas comment d'ailleurs, parce que c'est, enfin je sais pas comment, si je sais maintenant, il était là en fait, c'est tout. Et je lui confiais tout, c'était un peu le soir, ouais quand même, là j'ai un souci, machin, si tu peux m'aider. Alors on m'avait appris, les copains m'avaient dit comment le Notre Père, tout ça, ou ma cousine. Et puis l'histoire, j'ignorais tout, je veux dire entre l'enfant de la crèche et la croix. Mais je me posais pas la question. Les églises, on allait aux enterrements, ou on allait dans les cimetières. Donc il y avait bien des croix partout. Mais le pourquoi il était sur cette croix, en fait, je me posais pas la question. Et c'était un ami en moi qui me soutenait, voilà. Et vraiment beaucoup, quoi, jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, avec tout ce qui peut se passer psychiquement, émotionnellement, hormonalement. Voilà, et ça c'est, je me suis éloignée, enfin je l'ai oublié en fait, je l'ai oublié.
Comme font tous les ados.
Ben beaucoup, oui.
Ou presque tous, faut pas que ce soit généraliste.
Pas forcément tous, non. Mais je l'ai oublié, voilà, pour vivre. Et puis après, je me suis remis en route, parce que quand même la question du sens, du pourquoi, de...
Et qu'est-ce qui vous a fait remettre en route?
C'est après, vers 20 et quelques années, le sens de la vie. Mais du coup, je me suis beaucoup tournée vers tout ce qui est oriental, le bouddhisme, les trucs bizarres.
C'était à la mode à cette époque aussi,
la chiromancie, enfin, tous les trucs bizarres, peu de New Age, on était en plein là-dedans. Donc tout ça, ça m'intéressait. Le taoïsme, enfin tout ça. Alors j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup
cherché. Vous avez picoré,
cherché.
Comme on dit.
J'ai cherché quand même, lu, étudié.
Plus que picoré alors.
Ah oui, plus que picoré, c'est-à-dire que je voulais vraiment, enfin je cherchais. Je cherchais du sens et avec des amis, on cherchait, on essayait, voilà. Et jusqu'à ce qu'une amie m'emmène dans un petit monastère, à une messe. Alors une amie qui était plus âgée que moi et qui avait vraiment vécu un retour à la foi par Marie. Et qui me raconte ça, donc moi je l'écoute, c'était intéressant. Et donc elle me raconte qu'il y a un petit monastère au nord de Lyon, enfin pas très loin, j'habitais Lyon à l'époque, avec des jeunes, c'était une jeune communauté. Et c'était formidable, et on pouvait aller le jeudi soir manger avec eux, puis ensuite assister à la messe. Et donc elle m'emmène, effectivement, des moines et moniales super dynamiques, qui avaient à peu près mon âge, moi j'avais 30 ans. Et très joyeux, très sympa, et on mange ensemble après la messe. Moi, je fais comme tout le monde, je me lève, je m'assois, machin, et puis j'écoute l'évangile. Et là, l'évangile, justement, c'était, si ton œil est source de péché, arrache-le, jette-le au loin, si ta main est source de péché, voilà. Ouais. Et puis intérieurement, je me dis, ça m'étonne pas que les églises se vident, et voilà, ce genre de religion, Sauf que c'était vraiment... c'était le père Verlaine, je ne sais pas si vous connaissez.
Ouais.
Et du coup, bah, un prêtre qui a vécu un peu aussi cette histoire de voilà, d'aller en Orient, de revenir, et qui a vécu vraiment une reconversion et qui a voilà, toutes ces philosophies orientales qui a vraiment été...
Et vous, ça vous touche.
Et du coup, donc, il dit son homélie. Et il est clair, effectivement, le texte. Il a commencé avec beaucoup d'humour en disant bah ouais, on va avoir l'air fin au moment de la résurrection. Quoi. Il dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce que vraiment vous pensez concrètement qu'il nous demande d'arracher notre œil et couper la main ? Et il nous éclaire le texte, quoi. Et c'était vraiment, c'était lumineux. En gros, oui, c'était mais accepter toute coupure, mais surtout ne jamais se couper de son amour. La 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 la. Christa
Témoin quand la foi se raconte.
Et la foi se raconte aujourd'hui avec Juliette Latron, plasticienne, on va y venir, mais on est en train de parler plutôt de son itinéraire de foi qui a abouti à ce qu'elle soit aujourd'hui responsable de l'équipe de l'aumônerie catholique du CHU de Saint-Étienne. Et on vient d'entendre, Juliette Latron vient d'entendre la musique d'Hildegarde de Bingen, un kyrie, interprété par Catherine Braslavski. C'est une musique qui vous touche, ça, je crois.
Oui, j'aime beaucoup les compositions de Saint-Hildegarde de Bingen, oui, avec des très belles voix.
Elle vous transporte,
bah, elle nous met en présence, quoi, en sa présence.
Alors, vous étiez en train de nous expliquer votre rencontre, finalement. Enfin, votre rencontre.
Si, c'est ça.
Votre rencontre.
Ou retrouvaille, plutôt.
Vos retrouvailles avec un Jésus qui était pour vous un ami, quelqu'un à qui vous parliez. Et vous, vous découvrez peut-être un Jésus plus qu'un ami.
Et ben là, comme je disais, voilà, déjà l'homélie m'a touchée. Et après ça, il y avait le temps de communion, tout ça, les gens vont communier. Bah, pas moi, puisque j'avais pas fait ma communion. Et après ça, il y avait adoration. Mais je savais pas ce que c'était, moi. Donc, il y avait un truc rond installé sur l'autel. Et tout le monde silencieux. Donc, voilà, j'attends. Et là, dans mon cœur, j'ai vraiment retrouvé, quoi. C'était... Ouais, c'était comme quand j'ai lu Saint-Augustin, mais tu étais là, mais oui, j'ai toujours été là, c'est toi qui n'étais plus là. Et je cherchais en dehors de moi, il était au-dedans de moi. Alors je voulais préciser aussi que j'étais enceinte, entre 6 et 7 mois, et je reste convaincue que quelque chose s'est passé là, en fait, parce que l'enfant enfin, est en lien avec son créateur, et je veux croire que... Il s'est passé quelque chose entre lui et que j'ai senti. Moi, la visitation, ça me touche beaucoup. C'est de cet ordre-là. Et du coup, j'ai pas eu de vision, j'ai pas entendu de voix, machin, mais il était là, quoi. Et je suis repartie avec ça. J'étais super embêtée. parce que j'avais envie de revenir, quoi. Et ça avait, voilà, j'avais retrouvé. Bon, après, j'ai voulu faire ma communion. J'ai suivi le parcours communion, confirmation. Ça a pris quelques années. Mais il ne m'a plus jamais quitté, quoi. Mais j'ai retrouvé la même relation que j'avais petite. C'est pour ça que, c'est assez incroyable.
Et tout ce temps, ce qu'on appelle le parcours catéchuménal, hein, vous êtes adressé à l'église pour vous en demander, on vous a envoyé vers une équipe d'accompagnement de catéchuménat.
Ça a été assez particulier, là.
Et
oui,
donc,
mais bon, oui.
Oui, on va peut-être pas.
On abrège, ouais, c'est ça.
On peut pas donner tous les détails, mais ça vous a pas paru trop long, vous avez eu besoin de tout ce temps.
Non, j'avais soif. Parce qu'il fallait bien que je comprenne, moi, toute cette histoire sainte dont j'ignorais tout. J'ignorais presque tout. Et donc après, même cette communauté, moi, j'ai vraiment longtemps, longtemps fait partie de cette communauté où j'ai vraiment, ça m'a nourri, ça nourrit ma foi, ça m'a éclairé sur voilà.
Vous avez précisé quelle communauté ?
C'est la famille de Saint-Joseph, d'accord, qui est à Chasselet et également près de Béziers, à Saint-Joseph-de-Montrouge, voilà.
Donc ce parcours catéchuménal, et donc, alors il n'y a pas de baptême puisque vous étiez baptisé, mais première communion quand même, et puis probablement aussi
la confirmation.
Confirmation.
Oui.
Donc là, ça a été peut-être des moments forts pour vous, qui sont...
Ah oui.
Pour vous, c'était un aboutissement quand même.
C'est pas un aboutissement.
Ah, c'est pas un aboutissement.
C'est un soutien,
une suite
en
logique.
Fait. Ouais, une suite logique. Et puis vraiment, j'ai senti à partir de la confirmation, alors, ou à partir du moment de la communion, effectivement, on peut être, nourri, quoi, et porté. Mais la confirmation m'a vraiment donné, entre guillemets, les armes, pour continuer, parce que dans ma vie personnelle, c'était pas très facile. Mais ça m'a porté, quoi, tout le temps. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied n'heurte les pierres. Je sais pas, ça faisait du psaume.
Et à ce moment-là, Jésus n'était plus seulement un ami. Ou c'était encore un ami, mais un ami plus proche.
Il est toujours un ami. Oui, si, toujours.
Un ami plus proche,
vraiment
intime.
Toujours un ami, mais Dieu aussi. Enfin voilà, c'est ça.
Oui.
C'est ça.
Vous aviez fait le lien.
Ça s'est fait comme ça. Oui, parce que après, faut bien étudier quand même l'histoire sainte et comprendre un peu de théologie, un peu de tout ça, quoi. Et après, les pièces de puzzle, elles s'organisent parce que j'ai grandi dans une quand même culture chrétienne. Et c'est vrai que j'ai, en faisant une relecture, il y a plein de choses qui imprégnaient déjà notre vie. Enfin, voilà, c'est un peu logique.
Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous étiez plasticienne. Est-ce que vous l'étiez déjà avant, je suppose? Quelque chose qui est venu dans votre vie?
Non, mais ça, depuis toujours.
Depuis toujours.
En fait, depuis toujours, je dessine, je peins, je fais des trucs, je bricole. Et
ça
j'ai
fait
des
beaux-arts.
Oui, ça, c'est moi, oui. Ontologiquement, on va dire. Je suis allée faire des beaux-arts parce que je pouvais rien faire d'autre, quoi. Par contre, ça m'a donné un diplôme qui me permettait pas grand-chose. Ça m'a nourri moi, ça m'a permis de déployer aussi ma pratique de plasticienne. Et après, par contre, le monde du marché de l'art, très compliqué. Donc j'ai fait tous les boulots possibles, imaginables. Mais beaucoup l'accompagnement. Et j'ai suivi une formation à l'art-thérapie aussi. Parce que ça, j'ai vu que dans la pratique artistique, il se passait quelque chose.
Rejoint plasticienne et aumônerie, finalement.
Tout ce qui est l'accompagnement, en fait, m'a toujours beaucoup été important pour moi. Et parce que j'ai donc donné un peu des cours aussi. Et c'est dans le cadre de mes cours que j'ai vu qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus profond que simplement apprendre à dessiner et tout ça. Et donc, j'ai suivi cette formation.
Et ça, c'était avant la reconversion?
Eh bien, c'était pendant, en fait.
C'était pendant.
Oui, puisque en fait, c'était pendant
comme
ma
vous disiez
formation.
Tout à l'heure, c'est un pulse qui
c'est
se
ça.
Construit.
En fait, ma formation art thérapie, alors avec toutes les connaissances en psycho, tout ça, c'était très important. Et je suis tombée enceinte au milieu de la formation. Donc là, la conversion s'est vécue là. Ça s'est exprimé, oui, dans le cadre de ma formation. Et après, j'ai fait tout un parcours j'ai fait une psychanalyse pour pouvoir. Si on veut être en mesure d'accompagner les personnes, il faut faire le chemin soi-même.
Juliette Latron, j'ai envie de vous demander la différence entre plasticienne et peintre.
Mais plasticienne, le peintre utilise que de la peinture, on va dire. Mais donc c'est un peu réducteur. Pour ça qu'on dit beaucoup plasticien.
Mais vos œuvres, ce sont des tableaux.
Parce que ça peut être en fait des tableaux, des collages, de la peinture, du dessin, de la sculpture, des associations de tout ça. Du coup, c'est plus ouvert à. Voilà, c'est pour ça que je peux aussi bien sculpter que peindre.
Et pourquoi vous, justement, choisir, c'est plus large que la peinture? Parce que c'est vous, c'est vos goûts, c'est votre
envie.
C'est
quand on crée, on se pose pas de questions, on prend ce qui nous attire et du coup ça élargit le terme quoi. Parce que je ne fais pas que de la peinture.
Et vous parlez de création. On pense au créateur aussi. Vous sentez un peu le bras de cette création.
Alors ça s'est mis en route progressivement. Dans le cadre de ce que je faisais, où j'ai vraiment, par exemple, été touchée par le visage du Saint-Suaire, de Jésus du Saint-Suaire, et ça m'a donné envie de le peindre. Et en fait, les sujets religieux, j'ai eu envie de les réaliser. J'ai eu l'occasion aussi de participer à une biennale d'art sacré à Lyon, où il y avait une thématique, et c'était formidable, quoi. Justement, de tout ça, ça s'organisait, c'est-à-dire de faire quelque chose avec des artistes croyants, chrétiens. Et ma pratique, du coup, c'est vraiment spécialisée là-dedans, quoi.
Donc vous avez exposé, malheureusement ça ne vous permet pas de vivre.
Ah bah pas du tout, non, mais ce n'est pas grave en fait, dès l'instant où...
Ce qui est important c'est d'être pouvoir
c'est créer. Que ce soit mon... Alors déjà les faire, oui, mais qu'il y ait des opportunités de montrer. Donc l'année dernière, il y a eu à Notre-Dame de l'Ermitage à Saint-Chamond, on m'a proposé. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'exposer à l'église Le Corbusier à Firminy. C'était super quoi, parce que voilà, là ça avait sa place, ça avait tout son sens...
Actuellement, là, on est au mois de juin 2024. Vous exposez pas, justement,
non,
si les gens vous écoutent, vous aimeriez savoir ce que
pour
vous
l'instant,
faites.
Non. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est surtout pas la, j'ai pas l'espace, quoi, pour travailler, en fait. Enfin, pour faire ça. C'est vrai que l'aumônerie me prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. Et créer, peindre, ça demande aussi beaucoup d'espace intérieur, en fait.
Et vos thèmes de
disponibilité.
De tableaux, enfin, de création, c'est plutôt religieux ou ça peut être plus large?
Ben maintenant, c'est vraiment des paroles de la Bible, ou des images, de Christ, où j'aimerais bien faire des stages d'icônes, ou, voilà, mais j'ai pas le temps de faire tout ça, quoi, mais ben.
Je propose, Juliette Latron, qu'on réécoute un peu la suite, finalement, de ce que j'ai coupé horriblement en Hildegard de Bingen et qu'on se remette dans cette atmosphère.
D'accord.
Pour ensuite parler de l'aumônerie.
D'accord.
Témoin,
Louis-Marie Lacroix.
Et je suis avec Juliette Latron, plasticienne, on vient d'en parler, de ce travail finalement, ce travail aussi, cette création plutôt, et puis aussi responsable de l'équipe de l'aumônerie catholique du CHU de Saint-Étienne. Les deux sont liés, Juliette Latron. C'est question piège, là, je vous...
Bah, c'est lié dans le sens où...
C'est votre vie, bien sûr.
C'est ma vie, quoi, voilà.
Et voilà. Mais vous parliez d'art-thérapie tout à l'heure, que vous aimez bien accompagner.
Oui.
À l'aumônerie, on accompagne.
Alors, j'ai à la fois une période où j'ai beaucoup enseigné les arts plastiques dans les MJC, quoi, cours, dessin, peinture et sculpture. Et j'ai aussi, pendant 13 ans, été donc art-thérapeute en EHPAD auprès des personnes âgées Alzheimer. Donc, c'est cette dimension d'accompagnement de la personne là où elle en est. Même dans le cadre de mes cours, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un accompagnement, surtout vers la confiance, quoi, pour pouvoir s'exprimer. La technique vient après.
Vous parliez tout à l'heure, au début de cette émission, de l'accompagnement de vos parents en soins palliatifs. Vous étiez déjà formé à cet accompagnement, à cette art-thérapie? Non, pas du tout. Donc.
Si, c'était, oui, j'avais déjà ça, oui. Et j'exerçais déjà un petit peu, quoi. Alors, très sporadiquement, hein, mais, j'ai travaillé avec des personnes autistes.
Et donc, tout ce bagage, aujourd'hui, vous sert dans l'aumônerie de l'hôpital du CHU?
Bien sûr. Ouais. Oui, j'ai fait beaucoup d'aide à domicile aussi, en tout simplement, quoi. Je veux dire, accompagner, quoi, être là auprès d'une personne qui peut être fragile.
Lorsqu'on vous a appelé à être à l'aumônerie de l'hôpital, vous étiez...
En fait, on m'a pas appelé du coup. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une amie qui était en stage pour être aumônier. Et elle me décrit ce qu'elle fait. Et là, ça me fait tilt, quoi. Ça me fait vraiment, mais c'est ça, quoi. Mais c'est là où tu m'attends, Seigneur. C'était pas j'ai envie, c'était... Mais c'est ça, j'avais voulu faire une formation en soins palliatifs qui n'avait pas été acceptée. Voilà, je cherchais quelque chose. Et là, elle me dit, mais va voir la personne responsable de la pastorale de la santé, parce qu'il y a des personnes qui partent à la retraite, tout ça, il y a des besoins. Et donc, j'ai fait ça. Je suis allée voir. Donc, c'est vrai que souvent, on appelle les personnes.
Oui,
et là, c'est moi qui suis venue. Je ne sais pas si vous avez besoin de moi.
Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le Seigneur qui vous appelait.
Ben, je pense, oui, oui. Ouais. Et donc, il y a eu tout le parcours, le stage, etc., discerné. Et puis... Et puis, je me suis retrouvée donc à Hôpital Nord. Et voilà, je m'y sens vraiment à ma place, quoi.
Et avec une équipe aussi.
Eh ben oui, toute seule, bien sûr, heureusement, avec une équipe, bien sûr. Parce que seul, il y en a qui sont seuls dans l'hôpital. Enfin, voilà, selon la dimension, là, on a la chance d'être une équipe et c'est un vrai soutien.
Une bonne équipe avec des, d'autres salariés et puis des bénévoles
et
aussi.
Et des bénévoles aussi, voilà.
Et on comment ça se passe, là? Vous répartissez, c'est votre travail de responsable de...
Bah, le travail de responsable, c'est pas non plus monstrueux parce que c'est une petite équipe. C'est voilà, la, c'est organisé, faire les plannings, mais c'est toujours en collaboration. Quoi, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour dire bon. <c'est>... voilà, la dimension administrative en fait, on va dire. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, parce que j'ai l'impression que ça m'empêche d'être auprès des patients. Mais il faut bien faire ce travail-là administratif.
Ouais. Voilà. Et j'ai précisé une aumônerie catholique. Vous êtes en lien avec les autres religions. Est-ce qu'il y a une aumônerie protestante, musulmane aussi?
Oui, il y a aussi une aumônerie musulmane. Voilà.
Enfin, donc c'est interreligieux aussi. Il y a.
Oui, oui, oui.
Il y a un travail ensemble. Vous êtes, vous vous
parfois,
voyez.
Parfois, oui, 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 oui. Si, si. On a l'occasion parfois. Bon, il y a des mouvements aussi, mais.
Donc c'est plus. Mais en fait, je vous entendais dire, faut organiser. Vous n'êtes pas frustré d'avoir organisé et puis de pas aller voir les malades.
Bah, faut que tout se fasse. Non, ça se, enfin, voilà, il y a quand même un grand espace pour les visites, hein. Et puis, il y a, voilà, il y a la visite d'information où on informe les personnes de
et
la présence de l'aumônerie. Et, bah oui, souvent aussi. Enfin, voilà, ça arrive. Il y a des rencontres avec les familles, des échanges avec les soignants. Et puis, les appels, enfin, les demandes, demandes qui peuvent être soit en urgence, soit simplement une personne qui dit, j'ai ma maman qui est là, si vous pouviez aller la voir.
En tout cas, c'est nécessaire, cette présence, quand même.
Ben, en tout cas,
c'est peut-être les malades qui peuvent le répondre, pas vous.
Ça fait un espace de présence entre guillemets gratuit, c'est-à-dire qu'ils ont les soignants, ils ont les agents d'entretien, machin, hop, faut emmener à la radio, etc. Et
je précise,
ils ont
la
aussi...
radio, c'est la radio de l'hôpital. Là, c'est pas
radiographie.
C'est pas le seul.
L'imagerie médicale. Et ils ont aussi la famille, mais du coup, ils ont à gérer. Il y a l'angoisse aussi. Donc, c'est pas forcément très simple, même si les proches sont un soutien. Et du coup, on arrive là comme un cheveu un peu sur la soupe. Et qu'ils soient croyants ou non, on est là disponible, en fait. Mmh. Et c'est là qu'il se passe des choses extraordinaires, quoi. Parce qu'on est envoyé auprès de tous, quoi, et une présence envoyée donc par le Christ, et voilà, c'est des rencontres où
on a commencé avec votre présence auprès de vos parents, et là on finit avec votre présence auprès des malades lambda que vous connaissez pas, donc vous ne connaissez pas forcément l'histoire, mais que vous sentez quand même aussi importante.
Très importante, oui.
Juliette Latron, cette émission touche à sa fin. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous porte? Vous avez parlé de Jésus, un ami, vous avez cité saint Augustin, vous avez cité ce passage de l'Évangile, si ton œil arrache-le, etc. Est-ce qu'il y a quand même une autre parole d'Évangile qui vous porte?
En fait, il y en a deux. Il y a moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, de Matthieu 28-20. Et aussi, j'aime beaucoup ce qu'il y a de fou dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages, ce qu'il y a de faible dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Et c'est vraiment à l'envers de la logique du monde, quoi. Que c'est là où il y a la faiblesse que le Seigneur peut se glisser et qui peut nous donner sa force.